Bonjour, je suis Ophélia Arras du Préhistocide de Brassimpouille. Aujourd'hui, nous allons parler de préhistoire dans Chronique préhistorique. Rubrique Alto Cliché. Alors aujourd'hui, dans Alto Cliché, nous allons parler de nos célèbres cousins, les Néandertaliens, l'homme de Néandertal ou de son petit nom scientifique Homo Neanderthalensis. Beaucoup d'images nous viennent en tête quand on pense à Néandertal. Il évoque vraiment la caricature du préhistorique, hein, une brute épaisse, hirsute, courbée, bête, à moitié nue, incapable de parler, s'exprimant par simple onomatopée, bref, un être bestial. Et pourtant, la réalité est loin de cette image. Alors, d'où nous vient cette image? Il faut savoir que c'est en fait le premier hominidé fossile qui a été découvert en 1856 en Allemagne, dans la vallée de Néander, d'où ce nom de Néandertal, même si bien avant cela, en 1829, on avait déjà découvert des restes humains appartenant à Néandertal en Belgique, mais l'espèce à l'époque n'avait pas été reconnue. En comparaison, hein, on identifiera l'Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, un peu plus tard, en 1868, à l'abri Cro-Magnon en Dordogne. La découverte de 1856 fut donc une révolution dans le monde de la paléontologie en prouvant l'existence d'une autre humanité avant la nôtre. On trouve un squelette qui est proche d'une autre, mais qui possède certaines caractéristiques qui vont être interprétées par les paléontologues comme des signes d'une humanité ancienne, moins évoluée, voire même arriérée par rapport à l'homme moderne. Notamment la forme du crâne, qui est différente de la nôtre, plus allongée, avec un bourrelet très marqué au-dessus du sourcil, un front fuyant, ou encore l'absence de menton. En plus, la forme du squelette, c'est-à-dire la morphologie, est différente de la nôtre. Globalement, il a une allure beaucoup plus trapue que nous, il est plus petit et plus costaud. À l'époque de cette découverte, elle fait polémique. Et une grande partie de la communauté scientifique pense qu'il s'agit d'un faux ou d'un cas pathologique, ce qu'on appelle un dégénéré à l'époque. C'est la multiplication des découvertes de vestiges humains néandertaliens, notamment à Spie en Belgique, à la Chapelle au Sein en Corrèze ou encore à la Ferrassie en Dordogne, qui vont obliger les scientifiques à reconnaître l'espèce. Dans le contexte de la seconde moitié du XIXe siècle, la manière dont les scientifiques vont décrire ces Néandertaliens va servir d'outil politique, en alimentant l'argumentation coloniale et raciste de l'époque. La mode est au comparatisme ethnographique, on associe les Néandertaliens à ceux que l'on considère comme des sauvages, par exemple on les compare aux aborigènes d'Australie. Cette image va être fixée dans l'imaginaire collectif par les nombreuses représentations artistiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les peintres et les sculpteurs vont s'approprier ces découvertes et représenter Néandertal de manière simiesque, presque comme un gorille, tel qu'il est décrit en réalité par les scientifiques qui ont étudié ses premiers squelettes. Et cette image d'homme bestial va être reprise depuis cette époque, dans le cinéma, dans la publicité, les romans et j'en passe. Et voilà pourquoi, même encore aujourd'hui, nous avons cette image de Néandertal. Jusqu'à encore très récemment, il servait même de faire valoir, en réalité, à l'homme moderne, à l'homo sapiens, évolué, civilisé, industrialisé et même digitalisé. Et pourtant, nous sommes loin de la réalité. Nous savons beaucoup aujourd'hui sur ce cousin lointain qui finalement ne l'est pas tant. Nous allons voir tout ça dans Lumière sur nos ancêtres. Vous êtes bien dans l'émission Chronique préhistorique avec Ophélie Arras. rubrique Lumière sur nos ancêtres. Alors, dans Lumière sur nos ancêtres, nous allons éclairer un peu tout ça. Alors, Néandertal, il apparaît il y a 300 000 ans en Eurasie et nulle part ailleurs. Et il disparaît il y a environ 35 000 ans. Alors, il est vrai que Néandertal est à la mode hein, depuis une dizaine d'années. De très nombreuses recherches ont été menées à ce sujet et le point de départ a été en réalité le séquençage de l'ADN nucléaire de Néandertal en 2010 en Allemagne, qui a révélé que Néandertal s'est métissé avec l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre direct. Et oui, ils ont fait des bébés. Il y a environ 60 000 ans au Moyen-Orient. Et on le sait grâce à l'étude qui a montré que nous possédons de 1 à 4% du génome d'origine néandertalienne en nous. Et étrangement, depuis que l'on sait tout ça, notre regard a beaucoup changé. Finalement, on se demande si Néandertal était si rustre que ça. Contrairement à ce que l'on s'imagine, Néandertal, même s'il est plus ancien que nous, possédait un cerveau plus gros que le nôtre. Une belle leçon d'humilité d'ailleurs pour les sapiens. On sait également qu'il était capable de parler, comme nous, en articulant des sons, grâce à la présence du gène FOXP2 associé à la parole et grâce à la forme et à la position de l'os hyoïde, os situé au-dessus du larynx et en dessous de la base de la langue. Il était donc tout à fait capable de communiquer et de transmettre son savoir. Et il en savait beaucoup de choses. Déjà, il savait très bien faire des outils. Il était capable de réaliser des objets d'une grande finesse, témoignant d'un savoir-faire aguerri et d'une très bonne connaissance de la matière première. Il avait une panoplie d'outils variés, en pierre, pour racler, couper, percer, écorcer, raboter, etc. Certains de ces outils, comme les bifaces de Fontmort, dans la Vienne, sont magnifiques, très fins et symétriques, et réalisés dans un silex aux couleurs chatoyantes, violet, orange, jaune et blanc, de véritables œuvres d'art, tant par leur aspect esthétique que par leur qualité technique. Ou encore le superbe biface en cristal de roche de l'Abri des Merveilles sur le site de Castelmerle en Dordogne, pour ne citer que. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, il ne se limitait pas aux outils en pierre, mais fabriquait aussi des outils en os, comme des retouchoirs pour tailler le silex, des objets à pointer et même de très beaux lissoirs utilisés pour travailler les peaux. Il maîtrisait également parfaitement l'art du feu. Il produisait du feu en percutant une pyrite contre une arête d'un biface pour produire des étincelles chaudes. On en a la preuve avec les traces retrouvées sur des bifaces de plusieurs sites. Il utilisait aussi le feu pour parfaire ses armes, notamment les épieux ou javelots, comme on en a retrouvé en Allemagne ou en Angleterre, ainsi que des bâtons à fouir, outils servant à déterrer, à creuser et à casser des mottes de terre utilisés pour la cueillette. De très beaux exemples ont été découverts notamment en Italie. Alors on sait aussi que Néandertal est un très grand chasseur. Il est capable de chasser le rhinocéros ou le bison. Mais Néandertal ne se limite pas aux grands carnivores. Il consomme aussi des lapins, des oiseaux, des tortues, des poissons, des animaux marins et même des mollusques. On sait que sa consommation de viande est très importante, mais il n'est pas exclusivement carnivore. Et non, ce n'est pas un gros viandard, hein, toujours. Il consomme aussi des végétaux dont il connaît et utilise les vertus médicinales. On en a la preuve hein, parce qu'il a utilisé par exemple la camomille pour ses vertus anti-inflammatoires, des bourgeons de peuplier contenant la même molécule que l'aspirine pour ses vertus antalgiques. Il sait parfaitement s'adapter à son environnement et tirer parti des ressources qui l'entourent. Tout ça, on le sait grâce à l'étude de ses dents. Et oui, on en sait beaucoup grâce aux dents. Notons d'ailleurs que ce n'est pas la loi du plus fort hein, qui régnait à l'époque, car certains individus souffrant parfois de graves pathologies handicapantes, voire immobilisantes, ont survécu durant plusieurs années. Preuve donc qu'ils étaient pris en charge hein, par les autres membres de leur tribu et qu'il y avait donc de l'entraide chez nos lointains cousins, preuve également de leur empathie. Et d'ailleurs, ils prenaient soin des leurs jusque dans la mort. On connaît actuellement une quarantaine de sépultures néandertaliennes, d'hommes, de femmes, de tous les âges, du fœtus au vieillard. Ils enterraient donc leurs morts. Alors, ce qui n'est pas un acte anodin, cela implique une réflexion élaborée et complexe, sans être en mesure évidemment de prouver aujourd'hui hein, ce que ça signifiait pour eux. On peut se poser la question, Néandertal avait-il des rites funéraires, contrairement à d'autres époques? Aucun cas d'offrande chez lui n'a été vraiment avéré. En quoi croyait-il? Bien malin celui qui pourra répondre. Nous connaissons aussi chez nos cousins néandertaliens des éléments de parure. Et oui, ils aimaient être ornés avec des bijoux, des plumes et des pigments colorés. On est donc loin de l'image de l'homme singe du XIXe siècle. On a notamment retrouvé en Espagne des coquillages percés et parfois colorés, et même des serres de rapaces préparées pour être portées en suspension, comme en Croatie. Nous n'en connaissons pas réellement la fonction aujourd'hui, hein, mais on est frappé quand même par la beauté de ces éléments. Cette pensée symbolique et abstraite s'exprime aussi sur les parois des grottes. Et oui, Néandertal aussi faisait de l'art pariétal, longtemps réservé, on le croyait, à l'Homo sapiens. On a découvert il y a peu, en 2014, dans la grotte de Goram, à Gibraltar, des gravures sur le sol représentant un motif géométrique qui nous fait penser aujourd'hui à Hallstatt. On sait que chaque ligne tracée a été gravée plusieurs centaines de fois, ce qui prouve que c'est volontaire. Plus proche de nous, en Indre-et-Loire, on a découvert dans la grotte de Roche-Cotard plusieurs panneaux de lignes gravées au doigt dans l'argile recouvrant les parois de la grotte. On appelle ces traces des tracés digités. Et oui, l'homme de Néandertal connaissait très bien les grottes et s'aventurait parfois très loin dans les profondeurs du milieu souterrain. En témoigne l'extraordinaire structure retrouvée dans la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, datée de 176 500 ans, d'après le rapport publié en 2016. On a découvert dans une salle tout au fond de la grotte, avec un accès difficile, un cercle de stalagmites. Et l'on s'est rendu compte que ces stalagmites avaient été cassées et disposées volontairement au sol, formant une structure à peu près circulaire. On estime que les Néandertaliens ont déplacé environ 2 tonnes de matériaux, avec 420 000 morceaux de stalagmites, jusqu'au fond de la grotte, à la simple lumière du feu, qui a laissé ses traces, ce qui a permis d'ailleurs, derrière une datation précise. Et cet ensemble nous pose beaucoup de questions, notamment quant à la taille des tronçons de stalagmites, qui est régulière, et de l'accès, qui est difficile. Question auxquelles, bien sûr, nous n'avons aucune réponse. Pourquoi se sont-ils aventurés au fond de la grotte pour créer cette structure? On ne sait pas ce que cette structure représente, ni sa fonction. Seule certitude, elle n'est pas due au hasard. En conclusion, j'espère que toutes ces informations sur nos cousins néandertaliens auront changé votre regard, que vous ne les verrez plus comme une brute épaisse, mais bien comme un être évolué, sensible et très proche de nous. Car la science nous a prouvé que finalement, ils n'étaient pas si différents de nous. Et la recherche encore aujourd'hui se poursuit. On a beaucoup de choses à découvrir. Donc j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Je tiens à remercier Ludivine Franceschi qui m'a aidée pour préparer cette émission, qui est une grande fan de Néandertal, qui pour elle est vraiment trop choupinou. Je tenais à le dire.